20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Le cerveau de Ravel, tel est le titre d'un remarquable ouvrage publié aux éditions Odile Jacob, coécrit par trois neurologues, un ouvrage qui nous dresse un portrait pertinent du compositeur à travers ses états de santé et nous éclaire sur les troubles qui l'ont affecté à la fin de sa vie et l'ont empêché d'écrire ses œuvres qui pourtant jaillissaient encore dans son esprit. Un ouvrage qui se lit comme un roman ou comme une enquête passionnante. L'un de ses auteurs, Fausto Viader, sera avec nous tout à l'heure. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale, quelques infos développées par Philippe Gault sur le site de Radio Classique. C'est dans un aéroport désaffecté que le Komische Oper Berlin, l'opéra comique de Berlin, fera sa rentrée en septembre prochain, contraint de quitter sa salle habituelle en raison de longs travaux de rénovation prévus pour plus de 6 ans. L'institution lyrique investira plusieurs salles de la capitale allemande, mais aussi quelques lieux insolites comme ce hangar d'aéroport sur lequel seront installées 2 grandes tribunes où se donnera la production du Radeau de la Méduse de Hans Werner Henze dans une mise en scène de Tobias Kratzer. Une rencontre insolite entre le classique et le rugby à Toulouse. Rencontre entre le Stade toulousain et l'Orchestre national du Capitole sous la houlette du chef d'orchestre Pierre Bleuze. C'était hier à l'occasion d'une répétition où musiciens et rugbymen ont partagé la scène, où l'entraîneur Hugo Mola s'est même improvisé chef d'orchestre. L'occasion pour ces deux grandes institutions toulousaines de partager leurs valeurs, de s'ouvrir à l'autre, et cela dans le cadre de la préparation d'un concert carré qui aura lieu le 22 mai à la Halle aux Grains. Concert qui sera donné par les musiciens de l'orchestre, mais avec, nous promettons, quelques surprises de la part des membres du Stade toulousain. Du violoncelle vendredi soir à l'Auditorium du Louvre, le violoncelle de Sekou Kané Mason, le jeune et brillant musicien britannique, sera seul sur scène pour jouer un programme original entre répertoire et création, entre suites de Bach et pièces de compositeurs des 20e et 21e siècles, et avec même une petite touche cubaine. Et cela tandis que vient de paraître son nouvel album chez Decca, autour du thème de la chanson, à travers les siècles et les styles, du baroque au jazz, en passant par Beethoven, Mendelssohn, Massenet ou encore Stravinsky. Chanson russe de Stravinsky, jouée par Sekou Kané Mason avec sa sœur Isata au piano. Un extrait de cet album Song, tout juste sorti chez Decca. Sekou Kané Mason qui sera donc en concert en solo avec son violoncelle vendredi soir à l'Auditorium du Louvre.
Laure Maison sur Radio Classique.
Valentine, je ne ferai jamais ma Jeanne d'Arc, cet opéra est là, dans ma tête, je l'entends, mais je ne l'écrirai plus jamais, c'est fini, je ne peux plus écrire ma musique. Ces propos de Maurice Ravel, datant de l'année 1933, ont été rapportés par l'une de ses amies, Valentine Hugo, dans un bouleversant témoignage. Et ce témoignage, on le retrouve dans un passionnant ouvrage intitulé « Le cerveau de Ravel », publié aux éditions Odile Jacob, coécrit par Bernard Le Chevalier, Bernard Mercier et Fausto Viader, qui est notre invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes vous-même neurologue, professeur émérite à l'université de Caen, ans, amoureux de musique, amoureux de Ravel aussi.
À coup sûr, certainement, oui, oui.
Comment est né le projet de cet ouvrage qui réunit trois neurologues?
Alors, le professeur Le Chevalier, qui est un de mes anciens patrons de neurologie, a déjà publié plusieurs ouvrages sur la musique et le cerveau. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce livre sur Ravel. Et Bernard Mercier est un médecin qui a fait sa thèse sur Ravel et sur la maladie de Ravel. Et en troisième lieu, nous avons été aidés par Manuel Cornejo, qui est le président de l'Association des Amis de Ravel, qui a écrit un ouvrage sur sa correspondance, dans lequel nous avons abondamment puisé.
Oui, qui est une véritable Bible pour tous les amoureux de Ravel. Alors ce livre passionnant, Le cerveau de Ravel, retrace la vie du compositeur de façon tout à fait pertinente, à travers ses états de santé, et puis il nous livre finalement un diagnostic de sa maladie, la maladie neurologique de Ravel, qui a affecté les dernières années de sa vie, on va l'évoquer, mais une vie qui a été, Fausto Viader, qui a été marqué par la maladie, par la fragilité. Il était très fragile de santé, Ravel. Il était petit, il était en proie aux insomnies, à la dépression, voire même aux idées suicidaires.
Ravel a été de tout temps sujet à des périodes de fatigue, à des périodes d'insomnie. Il était tourmenté. On dirait aujourd'hui peut-être qu'il était névrosé, peu importe le mot, mais il était extrêmement perfectionniste. Il prenait énormément de temps à composer jusqu'à ce qu'il juge qu'il avait atteint son objectif. Et par ailleurs, il faut souligner, et ça c'est un aspect de la personnalité de Ravel que j'ai découvert en collaborant à ce livre, c'était quelqu'un qui avait un esprit extrêmement indépendant. Il était totalement insensible aux honneurs. Il a refusé la Légion d'honneur. Hein. Il était à contre-courant de certaines tendances de son temps, en particulier l'antisémitisme. C'était un grand ami de Léon Blum. Et en matière artistique, il a été toujours à la pointe. Ça a été un pionnier sur le plan musical.
Alors, on dispose de très nombreux documents, de très nombreux témoignages qui nous permettent de suivre sa vie et notamment ce qui nous intéresse ce soir, ses états de santé. Les états de santé de Ravel en particulier, on l'évoquait, cette riche correspondance. Il se confiait beaucoup sur sa santé, il en parlait beaucoup à ses proches.
Oui, alors il en parlait. D'abord, il a eu des ennuis de santé pendant la guerre de 14 parce que il avait été exempté initialement pour, entre guillemets, faible constitution. Il était petit, 1m61, 48 kilos. On n'avait pas voulu de lui, alors ça l'avait énormément affecté. Et il a fait tous les efforts qu'il a pu et il a fini par être incorporé comme conducteur de camion. Et pendant cette guerre, il a eu des ennuis, il a dû être opéré, enfin bon. Ensuite, effectivement, dans ses lettres, on peut lire des comptes rendus détaillés de son état. Il dit qu'il dort pas, il dit qu'il n'a plus d'inspiration, ce qui n'est pas vrai, mais qu'il se sent vieux, qu'il est fatigué.
Qui est la mort de sa mère, qui l'a profondément affecté.
Ça a été le grand malheur de sa vie. Oui. Sa mère est morte en 1917. Ça a été la femme de sa vie, hein, parce qu'on lui connaissait pas de relation suivie. Il a pas été marié. C'est vrai que ce deuil a été pour lui très difficile à surmonter.
Thank you.
deuxième mouvement, l'envoûtant deuxième mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel dans l'interprétation légendaire de Samson François avec André Cluytens et la Société des concerts du Conservatoire. Je suis désespérée, ce concerto avançait avec une rapidité surprenante quand tout à coup j'ai été pris d'une grande lassitude. Les médecins m'ont immédiatement ordonné de me reposer et de ne reprendre le travail que peu à peu. Cette lettre de Maurice Ravel date de décembre 1930. Le compositeur y exprime sa difficulté à achever ce concerto en sol. Et cette lettre, elle figure dans cet ouvrage absolument passionnant, Le cerveau de Ravel, auquel vous avez participé, Fausto Viader, et que l'on évoque ce soir sur Radio Classique. Elle évoque, elle témoigne de l'apparition des premiers troubles neurologiques de Ravel, que l'on peut situer, l'arrivée de ces troubles, vers 1927-1928.
Oui. Le début est difficile à situer pour deux raisons, parce que maintenant nous le savons, il avait une maladie dégénérative, donc dont le début est très progressif. Et ensuite, Ravel était, comme on le disait tout à l'heure, était sujet à des états de fatigue, et pendant des années, il a consulté des médecins, en particulier le professeur Valéry Radeau, qui l'ont traité pour la fatigue, mais sans identifier au début l'origine neurologique de ces troubles. Et je pense qu'il y a eu deux époques dans sa vie. Il y a eu une époque où c'était quelqu'un qui était sujet à des hauts et des bas, comme ça, comme un peu comme tout le monde. Mmh. Et puis, un jour, la maladie neurologique est arrivée là-dessus et s'est peu à peu substituée à une banale fatigue. Et il a commencé par, effectivement, se rendre compte qu'il ne pourrait pas jouer lui-même, créer lui-même le concerto en sol. Il l'a confié à Marguerite Long, parce qu'il s'est aperçu qu'il serait incapable de le jouer. Et puis, il y a la fameuse histoire, à l'été 1932, de la baignade qui a failli lui être fatale, puisqu'il ne savait plus nager d'un seul coup, à Saint-Jean-de-Luz. Et voilà, il y a eu des épisodes comme ça qui ont été très marquants, qui témoignaient déjà de sa maladie cérébrale.
Et puis il y a ces troubles de l'écriture.
Alors,
que vous les
troubles de
également.
L'écriture, on peut les situer vers 1930-1931 sur des courriers. Et sur ces courriers, on voit des ratures, on voit des hésitations, on voit des mots manquants quelquefois. Ça a été probablement, la première manifestation des difficultés gestuelles de Ravel, ce qu'on appelle une apraxie. L'apraxie, c'est une difficulté à exécuter quelque chose qu'on a appris à faire. On ne vient pas au monde en sachant écrire, on l'apprend. Et puis, on peut perdre cette capacité lorsque la zone du cerveau qui est en charge de cette action est lésée.
Donc, il faisait des brouillons pour ensuite recopier et essayer d'envoyer des lettres lisibles.
Il y a un exemple de lettre dans le livre où on voit la lettre finale qu'il a envoyée et le brouillon qui l'a précédé. C'est tout à fait terrible.
Alors, on peut établir, Fausto Viader, de façon assez chronologique, l'apparition et le développement de sa maladie. Est-ce que l'événement que vous racontez, notamment dans ce livre, l'accident de taxi en 1932, qui n'est évidemment pas la cause de sa maladie, mais est-ce que c'est un événement qui a accentué le développement de cette maladie?
Je ne sais pas si cela a accentué le développement.
Parce qu'il a été grièvement blessé à ce moment-là.
Il était blessé. Il n'est pas établi qu'il a eu un traumatisme crânien. Ouais. Il n'a pas perdu connaissance. Il a eu un traumatisme facial et thoracique. Surtout thoracique. Il a eu ce qu'on appelle un hémothorax, c'est-à-dire un épanchement de sang dans la plèvre. C'était assez grave. Mais il n'est pas prouvé que son cerveau ait été réellement lésé. Par contre, le retentissement psychologique de l'accident a été considérable. Et chez quelqu'un comme Ravel, qui était un homme un peu fragile et qui était déjà affecté par la maladie, qui était tourmenté, ça a certainement contribué à aggraver, sinon la maladie, tout au moins son expression clinique.
Alors, il doit renoncer à nager, il doit renoncer à jouer du piano, puis il doit renoncer tout simplement à composer, ouais. Puisque ses derniers projets, on évoquait tout à l'heure cet opéra Jeanne d'Arc, il doit y renoncer. Et
oui, oui.
En quelle année s'arrête-t-il complètement?
En 1931, il ne parvient plus à mettre les notes sur les partitions. Alors, cela a été étudié plus tard, parce que Ravel a été examiné par un neurologue, le professeur Alajouanine, et par un psychiatre qui était le professeur Baruc. Et Baruc était pianiste. Et il lui a fait faire des épreuves d'exécution de partition, de lecture de notes et d'écriture de notes. Et on voyait bien que Ravel était incapable de d'écrire correctement la musique à ce moment-là.
Et il avait conscience, justement, de cette incapacité, ce qui était une immense souffrance pour lui.
Il en souffrait d'autant plus qu'il en était parfaitement conscient.
Il a gardé ses capacités intellectuelles jusqu'au bout.
À la fin du livre, nous avons inclus les notes qui avaient été prises par un historien sous la dictée d'Alajouanine, pratiquement. Et la dernière phrase d'Alajouanine, c'est « Il était parfaitement conscient de ses troubles. » Toute sa vie, il a été conscient. Et non seulement il en était conscient, mais son inspiration n'avait pas été affectée. Quand il disait « J'ai tant de musique dans la tête »,
mais il ne pouvait pas la retranscrire.
Ouais.
Et donc, sa dernière œuvre achevée, c'est ce cycle de mélodies « Don Quichotte à Dulcinée ».
Me disiez que la terre a tant tourné tout son sens, je lui dépêcherais pour ça. Vous la mériez, fixez cette terre. Si vous me disiez que la nuit vient du ciel trop fleuri, déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. Si vous me disiez que l'espace ainsi vidé ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au poing, j'étoilerai le vent qui passe. Et si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'à madame, je blêmirais dessous le blâme.
La chanson romanesque du cycle de Don Quichotte à Dulcinée de Maurice Ravel, chantée ici par José Van Damme, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Kent Nagano. Don Quichotte à Dulcinée, dernière œuvre achevée de Ravel. Ravel dont on évoque ce soir sur Radio Classique la santé mentale, en compagnie de Fausto Viader, neurologue, co-auteur de cet ouvrage Le cerveau de Ravel, qui vient de paraître, et dans lequel, Fausto Viader, vous nous dressez finalement le diagnostic de la maladie de Ravel, cette maladie neurologique. Comment avez-vous établi votre diagnostic à partir déjà des documents, des médecins, des propres diagnostics faits par les médecins de l'époque?
Alors, le diagnostic, il n'est pas absolument démontré, car le cerveau de Ravel n'a pas été prélevé après sa mort. À cette époque, on aurait pu faire un examen du cerveau. On savait faire des examens du cerveau. On était en 1937. 30 ans plus tôt, Alzheimer avait déjà décrit sa maladie en faisant des examens du cerveau. Bref, ça n'a pas été fait. Mais il y a un faisceau d'arguments qui nous permet aujourd'hui d'évoquer un diagnostic. Alors, le premier élément du diagnostic, il faut comprendre, c'est que c'est une maladie très progressive que Ravel avait. C'est une maladie qui appartient aux maladies neurodégénératives. Par exemple, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, que tout le monde connaît. Mais là, on n'est ni dans l'Alzheimer, ni dans le Parkinson. La particularité de sa maladie, et ce qui a rendu le diagnostic difficile à ce moment-là, Et ce qui fait que le chirurgien a jugé que ça valait le coup de tenter une intervention, qui était un grand neurochirurgien par ailleurs, hein, il y a sa biographie dans le livre, pour ceux que ça intéresse. Et donc, cette maladie, la difficulté, c'est que elle était très localisée dans le cerveau. C'est-à-dire que les troubles, ça n'était pas une démence. Ravel n'avait pas perdu la tête. Il n'avait pas perdu la mémoire. Il avait un comportement normal. Il avait une perception normale des émotions. Il avait gardé toute sa finesse psychologique. Mais il avait perdu la capacité d'utiliser certains outils. L'écriture, la parole, ce sont des outils qui permettent au cerveau d'accomplir ses fonctions de relation. Ravel avait énormément de choses à exprimer. Tout ce qu'il avait à exprimer était intact, mais il ne pouvait plus le faire. Et donc, ces dernières décennies, on a appris à mieux connaître ce type de maladie. Ça a commencé dans les années 1980 avec la description de ce qu'on a appelé les aphasies progressives. L'aphasie, c'est de plus pouvoir parler. D'habitude, c'est après un AVC, c'est d'une seconde à l'autre. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui perdaient peu à peu la capacité de parler et ils restaient pendant des années intacts sur tous les autres plans, mais ils avaient perdu. Et ce que Ravel avait, c'est quelque chose un peu de cet ordre-là.
Parce qu'il n'a pas fait d'AVC, Ravel.
Il n'a jamais fait d'AVC, il n'y a jamais eu d'événement soudain dans son évolution. Le neurologue qui l'a examiné, qui est le professeur Théophile Lajoinine, que Bernard Le Chevalier a connu, et qui était un neurologue très éminent, hein, il était parvenu à ce diagnostic déjà. Théophile Lajoinine avait dit « il a une atrophie cérébrale circonscrite ». C'est exactement ça. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui s'atrophie, mais ça n'est pas tout le cerveau, comme chez les gens qui deviennent déments. Là, c'était une partie du cerveau. On présume que c'était du côté gauche, localisé à des zones qui commandent l'écriture et la parole.
Mais est-ce qu'on sait ce qui a déclenché cette maladie ? On ne sait pas si c'est héréditaire.
C'est une très bonne question. Toutes les maladies dégénératives peuvent être héréditaires. Bon, on a exploré les antécédents familiaux de Ravel à la recherche d'un indice. Et franchement, non, on ne peut pas l'exclure totalement, mais on n'a pas d'indice pour penser que c'était héréditaire.
Et que pensez-vous, Fausto Viader, des traitements qu'a reçus à l'époque Maurice Ravel ? Il a même subi des séances d'électrothérapie.
Oui, puisque vous parlez de l'électrothérapie, il faut dire que ça n'a rien à voir avec la sismothérapie. C'est ce qu'on appelle en langage familier les électrochocs. Ouais. C'est ce que l'on fait pour soigner, par exemple, certains cas de dépression très grave. Ça consiste à appliquer une décharge électrique extrêmement puissante qui provoque pratiquement une crise d'épilepsie. Ravel n'a pas du tout eu ça. L'électrothérapie, c'était des petites décharges électriques. Le patient restait conscient, il n'y avait aucune conséquence motrice. Simplement, on pensait à cette époque-là que ça pouvait avoir une action. C'est comme les médicaments qu'on lui donnait. Hein, les vitamines, les cacodilates, toutes sortes de produits dont je n'ai pas retenu tous les noms. C'était la pharmacopée de l'époque qui était très pauvre.
Oui.
Et ces médicaments, on les lui a donnés avant tout pour traiter la fatigue et l'insomnie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est que après plusieurs années qu'un neurologue a été consulté. À la Joanine, il n'a été consulté qu'en 1935. Jusque-là, il n'avait jamais vu de neurologue.
Oui.
Et donc, l'origine neurologique de ces troubles a été identifiée vraiment très tard.
Et alors, il a été opéré, il est mort peu de temps après son opération. Est-ce que c'est son opération qui l'a tué ?
On ne le saura jamais, mais il semble clairement, avant l'intervention, il avait encore dîné chez des amis, il avait échangé, il était parfaitement en forme, physiquement. Il est mort certainement d'une complication post-opératoire, on ne saura jamais laquelle, mais c'est comme ça. Hein.
Et aujourd'hui, il aurait vécu beaucoup plus longtemps, Ravel, on aurait soigné sa maladie, on l'aurait opéré.
Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'aurait pas opéré.
On l'aurait pas opéré.
Ah non, ça c'est certain. On aurait fait des examens biologiques à la recherche de marqueurs biologiques de maladies neurodégénératives qu'on sait aujourd'hui, qu'on a identifiées. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour ce type de maladie. Hein. Mais s'il n'avait pas été opéré, on peut présumer qu'il aurait vécu plus longtemps.
Mais il n'aurait pas forcément composé davantage.
On ne l'aurait pas guéri.
Le cerveau de Ravel, c'est ce passionnant ouvrage que vous avez coécrit, Fausto Viader, avec Bernard Lechevalier et Bernard Mercier. Cela vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
De façon si accessible en plus. Merci infiniment. On va se quitter avec quelques notes de Ravel. Alors vous avez choisi une musique d'un Ravel assez sombre, c'est Scarbouf. C'est Bertrand Chamaillou que l'on écoutait ici dans la fin de Scarbouf de Ravel. À noter que se tiendra le 8 avril à la Bibliothèque musicale de la Grange Fleuret à Paris, une présentation du livre Le cerveau de Ravel avec deux de ses auteurs, dont Fausto Viader. Et elle sera suivie d'un concert à Cortot, concert des 10 ans de l'Association des Amis de Maurice Ravel, avec sur scène Henri Barda et François-Joël Thiollier. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Louis Rouèche-Rossi pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de deux jeunes compositrices qui ont participé à l'Académie de l'Orchestre de Chambre de Paris. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.